Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Bonjour Turbine, en direct de la Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Alors nous sommes en équipe réduite aujourd'hui, mais je ne suis pas seul. En plateau avec moi, Alain, David et Marion à la technique. Vous allez bien tous les trois?
Impeccable.
Super bien. Merci.
Très très bien, très très bien, prêt à en découdre. Alors on salue aussi nos amis Florian, Thaïs, Lafken et Liz qui n'est pas présente mais qui a bossé sur le sujet du jour quand même. Et justement j'y viens au sujet. Nous sommes à quelques jours de la grande messe du secteur agricole, le salon de l'agriculture à Paris qui se tiendra le 24 février jusqu'au 3 mars. Alors nous allons donc parler agriculture, un sujet qui personnellement me tient à cœur, non pas parce que je suis petit-fils de paysan, non, plus parce que Oreillette, la vache égérie du Salon 2024, est native de Briouze, et oui, je vous l'apprends. Non, c'est parce que comme beaucoup de Français et Françaises, nous sommes touchés par ce triste contexte agricole. Alors ce salon de l'agriculture, ça sent le soufre et la souffrance, et ce déjà depuis une quinzaine d'années. Et je vais vous rappeler pourquoi. Alors d'après les dernières études de Santé publique France, un agriculteur, une agricultrice se suicide tous les deux jours en France. Mais pourquoi? Parce que hausse des charges, parce que revenus faibles mais une charge de travail considérable, parce que sentiment d'isolement, parce que sentiment de perte de liberté d'exploiter, parce que peur de l'échec ou encore parce que difficile conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Alors cela n'est pas passé inaperçu, la fronde des agriculteurs a sonné partout en France ces dernières semaines et la stratégie du gouvernement pour se désengager de sa responsabilité a joliment pointé du doigt l'écologie comme responsable de cette colère. Alors qu'en parallèle, nos chers élus venaient de signer avec l'Europe en novembre dernier un énième accord de libre-échange à l'international avec la Nouvelle-Zélande, avec qui désormais nous sommes devenus copains comme cochons. Alors est-ce qu'on nous prendrait pas pour des jambons? Je vous pose la question. Aujourd'hui dans cette émission, en plus de dresser un état des lieux de la situation, nous allons échanger avec notre invité Stéphane Bourlier, porte-parole du syndicat agricole la Confédération Paysanne du Calvados, pour comprendre pourquoi écologie et agriculture ne sont pas incompatibles et bien au contraire. Stéphane Bourlier, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Alors, peut-être avant de commencer, alors vous avez la casquette de porte-parole de la Confédération Paysanne du Calvados, mais vous êtes aussi éleveur. Est-ce que vous pouvez, avec votre femme, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette activité?
Eh bien oui, avec Alexandra, donc nous sommes paysans et paysannes, donc sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, donc éleveurs notamment de volailles de chair, donc poulet, pintade, dinde pour Noël. Nous avons un troupeau aussi de vaches allaitantes, donc pour la viande, pas pour le lait, mais pour la viande, et des pommes de terre de consommation, et que nous vendons, donc nous vendons notre production complète, donc en magasin spécialisé bio, parce que nous sommes en bio, en AMAP, à la ferme, sur des marchés et en restauration scolaire.
Ok.
Et membre de la Confédération Paysanne, donc du coup, depuis mon installation, il y a 15 ans maintenant.
Alors peut-être la Confédération Paysanne qui est un syndicat un peu à part, on n'est pas sur la FNSEA ou les jeunes agriculteurs qui sont largement majoritaires. C'est quoi qui fait la différence entre ces syndicats?
Effectivement, les JA, FNSEA, donc c'est le syndicat majoritaire, effectivement, donc très proche globalement du gouvernement et des gouvernements successifs. On parle de co-gérance. La Confédération Paysanne, qui est dit régulièrement dans les médias, notamment syndicat de gauche, donc nous l'assumons. Et donc voilà, la Confédération Paysanne défend un autre modèle agricole, l'agriculture paysanne, défend donc ses paysannes et ses paysans, mais vraiment sur une agriculture plus en lien avec l'environnement notamment, le respect aussi des paysannes et des paysans, une volonté de sortir aussi des pesticides par exemple, tendre du coup vers l'agriculture biologique notamment, et puis aussi en lien avec les problèmes de société. Nous sommes toujours, enfin très souvent présents aux côtés de, dans diverses manifestations, aux côtés d'autres syndicats, de la société civile, et effectivement ça fait partie aussi de notre volonté, enfin dans notre syndicalisme, il y a ça aussi, puisque les paysannes et les paysans font partie de la société, et on ne peut pas être à côté, mais on est avec voilà, les grands mouvements.
Et alors justement, c'est un syndicat de lutte, hein, vraiment. Là, on a vu ces dernières semaines qu'il y avait vraiment un regroupement de tous les syndicats, tout le monde est en colère, alors vous l'exprimez peut-être beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'on peut refaire peut-être l'historique ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce point que l'agriculture se délite ?
Alors, en quelques chiffres, déjà juste pour présenter, il y a 30 ans, nous étions à peu près 1,2 million d'agriculteurs, d'agricultrices, et 30 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes 400 000. Donc on a supprimé une bonne partie des agricultrices et des agriculteurs, et dans 10 ans, si on y va sur le même rythme, sachant que 50% des agriculteurs et des agricultrices aujourd'hui ont 50 ans et plus, dans 10 ans potentiellement on peut être que 200 000. Donc ça se réduit à peau de chagrin. Donc tout ça, l'explication d'un peu tout ça, c'est une politique agricole européenne mais aussi française. Qui pousse l'agriculture à s'agrandir tout le temps. Donc les fermes s'agrandissent, donc des fermes disparaissent. Et donc agrandissement des fermes, parce que le jeu de la PAC, les primes sont à la surface. Donc plus la ferme est grande, plus on touche de subventions de l'Europe. Et il n'y a du coup pas non plus de volonté de politique de la France, de la politique agricole française, d'inverser ça et plutôt aller vers des fermes plus petites où des paysannes et des paysans pourraient vraiment vivre correctement de leur métier sur des petites surfaces et pouvoir vendre aussi leur production localement, au plus proche d'eux. Et voilà.
Oui, on parle d'agriculture, de l'agribusiness aujourd'hui.
Alors voilà, c'est ça, on est sur de l'industrialisation, de la spécialisation de l'agriculture. Auparavant, il y a très longtemps, enfin des dizaines d'années, c'était beaucoup de la polyculture polyélevage, enfin polyculture-élevage, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs cultures, il pouvait y avoir plusieurs élevages sur une même ferme. Aujourd'hui, on a tout spécialisé. Par exemple, on est éleveur de volailles industrielles en bâtiment, on est éleveur de vaches laitières, on est éleveur de viande de vaches allaitantes. Et donc, on a tout spécialisé, tout industrialisé et du coup tout mécanisé, ce qui permet notamment de ce qui impose du coup l'agrandissement des surfaces, l'agrandissement des parcelles, puisque la mécanisation, il faut des grandes surfaces pour pouvoir travailler la terre, traiter, etc., le plus rapidement possible. Donc, il faut agrandir, il faut abattre les haies, il faut tout ça. Alors que nous, on défend tout à fait un autre système d'exploitation, c'était un autre mode d'agriculture. C'est au contraire revenir sur des fermes plus petites, voire très très petites en fonction des productions. On peut y avoir un maraîcher sur un hectare et être nombreux dans les campagnes. Nombreuses, il ne faut pas oublier les femmes aussi, dans les campagnes, puisque c'est bien ça qui fait la vie aussi, hein, c'est nous. Et donc, il n'y a pas de pays, comme on dit, pas de pays sans paysans, sans paysannes. Donc, voilà, c'est pour ça que nos idées s'opposent. Nos idées s'opposent et on est aussi très proche de l'environnement, justement. Dans ton titre, tu parlais de... L'environnement ne s'oppose pas à l'agriculture, mais évidemment que nous, on est dans l'environnement, on travaille avec l'environnement et on protège et on défend l'environnement, bien sûr.
Alors justement, en deuxième partie d'émission, on va creuser ce sujet, pourquoi est-ce que ce n'était pas incompatible. Là, je te propose d'écouter pendant une minute trente, un témoignage de Marine recueilli par Lise.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission sur la question de la crise agricole que nous traversons aujourd'hui et je vous emmène avec moi pour recevoir le témoignage de mon amie Marine de Clercq. Marine, elle est enfant d'agriculteurs et agricultrices en Normandie qui ont un élevage laitier. Elle a travaillé pendant de très longues années à la ferme avec ses parents et aujourd'hui elle est directrice artistique d'une marque qu'elle a cofondée il y a 2 ans qui produit des vêtements en lin 100% normand. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir son témoignage pour parler de la crise agricole actuelle et comparer notamment les difficultés qu'on peut rencontrer dans les deux filières qu'elle connaît. Elle nous parlera également de la loi Egalim et de l'ouverture aux marchés internationaux et nous expliquera, d'après elle, comment est-ce qu'en tant que citoyen, citoyenne, on peut soutenir la filière et interpeller les politiques.
La différence quand même entre les différentes cultures et agricultures, c'est que les charges ne sont pas les mêmes. Par rapport au nombre d'heures fournies, le ratio n'est pas bon. Donc textile, ça va, encore que ça va parce que là, ça gagne bien, mais s'il y a encore des mauvaises années, certainement à cause du changement climatique, si l'agriculteur céréalier ne peut plus compter sur le lin, il aura de moindres revenus. L'éleveur laitier, lui aussi ça va, mais pour le coup il a beaucoup plus de charges. C'est des produits qui sont revendus en grand volume et donc les prix sont quand même tirés vers le bas et qui est reversé à l'agriculteur est bien loin d'être au bon prix, quoi. Si on va revendre une brique de lait 1,30€, enfin entre 1€ et 1,30€ pour les meilleurs, le litre, l'agriculteur il va être payé entre 33 et 45 centimes du litre.
Alors on vient de l'entendre, il y a plusieurs systèmes d'exploitation, tout le monde n'est pas élevé à la même échelle, entre guillemets, on peut dire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette disparité ?
Alors en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que globalement, la politique agricole européenne est principalement française, ce qui s'explique par la forte présence de ce syndicat majoritaire qui est céréalier lui-même. En fait, on voit qu'il y a des différences entre les céréaliers, effectivement, les grands céréaliers, les éleveurs, et même dans l'élevage, si on fait du lait ou si on fait de la viande bovine ou si on fait du porc ou etc. ou de la volaille, effectivement, il peut y avoir des grandes disparités puisqu'il y a aussi cette mise en concurrence avec donc ça, c'est par le libre-échange et les accords commerciaux où on peut rentrer du coup en concurrence avec de nombreux pays. Mais en tout cas, effectivement, en fonction des productions, les prix ne sont pas forcément tous rémunérataires à la même échelle. Et il est vrai que d'être céréalier, par exemple, lorsque c'est semé éventuellement, enfin, il y a peut-être quelques traitements et autres, mais globalement, les journées sont moins remplies que si on a de l'élevage, où clairement, quand il y a l'élevage, et ben c'est du 7 jours sur 7, voire 24 heures sur 24, enfin en exagérant, mais c'est des astreintes très, très quotidiennes. Et donc, c'est ce qui gonfle aussi le temps de travail, finalement. Globalement, c'est de l'astreinte autour de l'élevage. Et donc, du coup, ça crée des disparités en termes de temps de travail et de rémunération, pour le coup. Et puis effectivement, il y a des cultures qui sont industrielles et industrialisées qui sont plus rémunératrices que les autres.
Et donc oui, tu le disais, du coup, plutôt défendu par la FNSEA. Alors je le rappelle quand même, Arnaud Rousseau, qui est la tête de la FNSEA, est aussi président du groupe industriel Avril. Voilà, ça pose effectivement la question du conflit d'intérêts. Tu parlais de cogérance avec le gouvernement tout à l'heure.
Oui, le groupe Avril, c'est le quatrième groupe agroalimentaire français. Donc Monsieur Rousseau est sur une ferme de 700 hectares. Donc bien loin de la moyenne nationale et de la moyenne, de la moyenne nationale du coup, et donc défend premièrement l'agriculture, les cultures céréalières, quoi, du coup défend un peu ses amis globalement. Et c'est ce qui est d'ailleurs un peu étonnant dans les revendications et dans les mobilisations, c'est que en fait peu de gens peuvent se comparer à Monsieur Rousseau qui est sur 700 hectares. Beaucoup d'éleveurs sont manifestes, se mobilisent et finalement ne sont pas défendus par lui, quoi, par sa politique, puisque tout ce qu'il veut, c'est que les céréaliers puissent continuer à faire de plus en plus de céréales globalement et librement, sans contrainte de produits phyto, etc. Et finalement, les éleveurs ne peuvent pas se reconnaître et ne toucheront pas plus pour autant, quoi, pas plus de revenus en tout cas.
Mais alors effectivement, en tout cas au début de cette crise, il y avait vraiment un petit conflit, en tout cas avec FNSEA et aussi les GIA. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas il y a Gabriel Attal qui a fait des annonces hier. En fait, le gouvernement fait des annonces au compte-gouttes peut-être pour calmer le jeu. Alors j'en cite quelques-unes. Alors le futur projet de loi pour simplifier la vie des agriculteurs. Meilleure délivrance des visas pour les travailleurs étrangers, levée de certaines contraintes sur les pesticides, nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif Egalim. Alors, ça fait plaisir ? Non, pas du tout. Hein.
Non, t'en as oublié pas mal en plus.
Oui.
Mais rien d'extraordinaire, en tout cas. Sur Egalim, c'est une loi qui existe depuis 2018,
ouais.
Hein, c'est ça. Et on parle, en fait, les GALIM, c'est des accords de prix entre, par exemple, grande distribution et producteurs, Mais il y a aussi une autre face de cette loi Egalim, c'est l'introduction de produits bio, par exemple, dans les restaurations scolaires, qui doit être un minimum de 20%. Donc, dans la restauration scolaire, dans toutes les restaurations scolaires, il doit y avoir minimum 20% de produits bio. En France, on est à 6%. Et ça, c'est l'État, globalement. C'est les services publics. C'est l'État qui n'impose pas ça dans les universités, par exemple, les hôpitaux et autres. C'est les régions dans les lycées. C'est les collèges pour les départements. Et c'est les primaires, par exemple, pour les communes. Et ça, on est à 6% en France. Donc, il est facile de dire que c'est uniquement l'agro-industrie ou les distributeurs qui ne respectent pas ça. Alors, effectivement, ça, c'est un vrai problème parce que les producteurs de lait, notamment, on en parle beaucoup et il n'y a pas de négociation et on n'arrive pas à un prix rémunérateur. Mais il ne faut pas oublier que l'État ne respecte lui non plus pas la loi.
Oui, alors justement, il y a eu des annonces de fait, plus de contrôle. C'est vrai que ça arrive un petit peu tard, plus de contrôle, mais est-ce qu'il y a des amendes ou ce genre de choses? Comment est-ce que ça se passe justement pour par la contrainte, pousser à la contrainte?
C'est ce qu'ils ont annoncé, qu'il y aurait des contrôles effectivement, qu'il y aurait des amendes, notamment pour la grosse industrie. Donc on va bien voir. Là, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'il y aura des amendes contre l'État aussi, s'il ne respecte pas. Mais il faut dire aussi que dans la loi, en fait, il n'y a pas d'obligation de respecter ces minimums 20%. Ça n'a pas été écrit. Donc du coup, c'est pour ça que c'est facile de ne pas les respecter.
Alors justement, on retrouve Marine qui nous parlait auprès du micro de Lise de cette loi Egalim.
Alors justement, la loi Egalim, ça permet de maintenir des prix justes entre grands industriels et les grandes surfaces, et aussi l'agriculture, pour empêcher une baisse du prix considérable auprès du producteur de matières premières.
Comment est-ce qu'on pourrait la faire mieux respecter?
A priori, c'est l'État qui doit faire la police. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'agriculteur n'a pas la main sur le prix auquel il vend son produit. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui va déterminer le prix pour acheter la matière première. À partir de ce moment-là, l'agriculteur, il ne peut que dire « Ok, bon, bah, de toute manière, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. »
Alors ça, c'est pour un certain type d'agriculture, puisque toi, tu le disais en début d'émission, les prix, c'est toi qui les fixes.
Oui, chez nous. Alors chez nous, c'est vrai qu'on a choisi de vendre toute notre production en circuit court. Donc du coup, on vend au magasin spécialisé bio, puisque la ferme est en bio, par exemple, en restauration scolaire, en AMAP, pas mal d'AMAP autour de Caen, et marché sur Caen aussi. Et donc c'est vrai qu'il est plus facile de fixer nos prix, même si il faut toujours faire attention, parce qu'on a nos consommateurs qui sont en face, et si on veut continuer à vendre nos produits, et ben, il faut que les prix soient accessibles toujours. Mais effectivement... on a cette possibilité de fixer nos prix et de décider avec qui on travaille. Par exemple, quand on parle du lait, c'est vrai que quand on est engagé avec une laiterie, on peut pas changer de laiterie du jour au lendemain. Et effectivement, c'est des négociations avec des groupes de producteurs. Donc ça, c'est la loi Egalim qui a permis ça. Donc des négociations qui se font avec la coopérative ou l'acheteur, en tout cas. Et globalement, c'est pas les producteurs qu'on la force, c'est plutôt l'industrie qui est plus fort et qui décide finalement le prix d'achat.
Et hier, par exemple, vous avez fait une action, la Confédération Paysanne, à Laval, dans le siège social historique de Lactalis, pour rencontrer M. Beignet. Alors qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, M. Beignet n'était pas là et n'a pas reçu la Confédération Paysanne. Effectivement, Lactalis, c'est le premier groupe mondial du lait. Donc très très gros groupe avec beaucoup de bénéfices notamment. Et donc non, Monsieur Beignet n'était pas là, n'a pas reçu. Et la Confédération Paysanne demandait aussi un rendez-vous là dans les deux jours. Et rendez-vous pas obtenu. Donc voilà, les mobilisations vont continuer en tout cas. Donc c'était une action importante puisque, comme on disait tout de suite, Beignet c'est quand même le plus grand groupe industriel, agroalimentaire dans le lait. Et donc c'était important. Et c'était important aussi par exemple, il a été évoqué, on parlait de prix. Par exemple, il y a un prix minimum. Donc c'est ce que la Confédération des Paysannes demande, un prix minimum, donc qui serait plus négociable. Il y a un prix minimum et ensuite, eh bien, s'ils veulent acheter plus cher, moi, qu'ils le fassent. Mais voilà, ça permettrait au moins d'avoir un revenu acceptable pour les paysannes et pour les paysans.
Parce qu'on le rappelle, il est possible pour ces industriels de pousser la négociation jusqu'à ce que les agriculteurs, agricultrices vendent leurs produits plus cher que le coût de revient, enfin moins cher que le coût de revient de ce produit. Donc c'est
par exemple, c'est aujourd'hui, fou. On peut trouver du lait, un litre de lait, je ne sais pas trop, mais autour de 1 euro 30, 1 euro 40 en grande surface. Et il est acheté que 30 à 40 centimes globalement au producteur. Donc il y a 1 euro entre deux, voilà. Qui est mis dans une poche, mais pas la poche du producteur en tout cas.
Alors justement, tu restes avec nous, on continue cette émission. Cette fois-ci, on accueille le fanfaron de l'équipe, David, qui nous a préparé une petite rubrique humoristique. Je ne sais pas trop comment l'introduire, puisqu'il nous a dit « Je vous verrai ce que je vais faire ce soir ».
Attention, attention, ceci n'est pas un exercice de style, ceci n'est pas une chronique. Veuillez éloigner les enfants du poste de radio afin de ne pas les exposer à des ondes traumatisantes. Ceci est un message informatif à caractère gouvernemental. Un jour, sur une terre en jachère, Biomane et Légumane donnèrent naissance à un fils... Agriculture man. Comme tout le monde dans la famille, il développa des super-pouvoirs. Mais nous y reviendrons plus tard. Ce nouveau super-héros, proche des mondes agricoles, défend les AMAP, les petits agriculteurs, contre le grand supermarché qui casse les prix et les marges des agriculteurs. Agriculture man. C'est le générique de l'épisode.
Génial.
Ce jour-là, à Montastruc, la conseillère, Jean-Pierre Boyer plantait des patates en espérant faire un bon bénéfice sur la vente. Mais aux stupéfactions, le grand supermarché envoya un robot du nom de Tractorosaur, piloté par Pascal Pro, dans le but de saccager le champ de patates. « Au secours, agriculteur man, peux-tu me venir en aide ?» aboyait désespéré par la violence de l'attaque. Ni une ni deux, agriculteur man prend sa cape et s'envole pour secourir l'agriculteur. Voilà les deux belligérants face à face. La lumière pâlit, les pipelettes du quartier se sont tues et la cloche de l'église qui d'habitude carillonne à tue-tête n'ose même plus tinter. Et le combat commence. Pesticides, glyphosate, s'écrie Tractorosaur. Chou-fleur de Bretagne, réplique agriculteur man. Petite parenthèse. Je ne comprends pas bien pourquoi les super-héros se sentent toujours obligés d'annoncer leur attaque. Je sais pas, c'est pas logique. C'est comme si Mbappé annonçait son tir lifté du pied gauche à destination de la lucarne droite. Je crois que pour le gardien, l'effet de surprise serait quand même moindre. Enfin, ne cherchons pas à percer les arcanes secrètes des super-héros. Laissons-les à leur délicieux délire et refermons la parenthèse. Donc la bagarre faisait rage, ça pétarade, ça fume, ça sent le fumier, le caoutchouc brûle. Comme devant les préfectures, Tractorosaur semble avoir pris le dessus. Mais c'est sans compter sur l'arme secrète d'agriculteur man, la pomme de terre sautée. En effet, quoi de plus explosif qu'une pomme de terre sautée quand elle est enrobée d'huile bouillante, une recette moyenâgeuse mais toujours efficace. Concentré de tomate, hurla agriculteur man, qui en utilisait pour ses pizzas. Le robot pilote fut noyé dans un liquide d'un rouge hémoglobine. « Ah, mais bon sang, c'est du sang, c'est mon sang. Ce n'est pas possible. Les robots ne saignent pas d'habitude. » Son intelligence artificielle n'y résista pas. Il péta une durite et fit une crise cardiaque. De toute façon, l'autopsie révéla l'encrassement du gicleur. Pro serait tombé de son Tractorosaur un jour ou l'autre. C'est une bien triste fin, un peu bizarre pour un robot censé ne pas avoir de cœur, mais il s'agit bien entendu d'un cœur de réacteur comme celui que possèdent les astronautes, comme Thomas Pesquet. Voilà comment agriculteur Mann a sauvé la ferme de Jean-Pierre Boyer, paysan français, adepte du labourage et du pâturage, soumis aux restrictions écologiques, aux marges travaillantes de la grande distribution et à la pression infernale de la paperasserie administrative des choux de Bruxelles. Cependant, sans doute, le grand supermarché ruminait sa vengeance en faisant valser les étiquettes pour la plus grande joie de ses actionnaires et la tristesse des consommateurs. « Je me vengerai !» Fin de l'épisode. Agriculteur Mann.
Bravo. Donc le lancer de tomates est recommandé pour stopper l'hémorragie. Et t'as quand même réussi à nous faire une référence footballistique. Voilà, c'est fou. Il faut qu'il en mette à chaque rubrique. Alors, nous allons faire une petite pause musicale avant de continuer cette émission. Et cette fois-ci, c'est Alain qui nous a choisi la pause. Alors, qu'est-ce qu'on écoute et pourquoi ?
Alors, on va écouter un morceau qui s'appelle Marius, qui est chanté par le groupe Imago, un groupe des années 75-85, qu'on peut appeler pop-folk engagé, dans la mouvance de François Béranger, Léo Ferré, etc. Et donc... on verra que cette chanson qui commence à dater est tristement d'actualité.
Te souviens-tu de ces temps-là ? Nous suivions les chemins étroits jusqu'au fond des bois. La maison de Marius se cachait entre les ronces et les genêts qui la protégeaient. Entre les livres et les cahiers, une pomme pour la récré. L'école Marius l'avait oubliée. On laboura la taille au blé, il lui fallait aider. Nous on trouvait sa vie passionnante. Qu'elle n'était pas marrante, qu'il fallait s'accrocher. Pour travailler, il faut des machines. Y'en a marre de courber les chines pour trois fois rien. Pour acheter, il faut emprunter. Et après, tu dois rembourser. Et tu es piégé. Les fruits que la grêle a laissés, tu moissonnes quelques balles de blé, tu fauches aussi les prés, si la pluie a bien voulu tomber. Et même si le raisin a gelé, il faut payer le tracteur, les engrais, l'assurance et le prêt. A foutu le camp. Le fils Bray s'en a fait autant. Le Camille bosse au ciment. La ferme du Marius s'est vendue. Il y a 3 ans peut-être plus. Un gars cossu. La faucheuse dehors a rouillé. La luzerne n'a plus repoussé. Les pommiers sont crevés. L'antiquaire de Privas est passé. Il a raflé le pétrin, le vaisselier, les joues et les chenets. C'est dommage. On aurait bien aimé rester. Travailler, faudrait pas croire que la terre, on n'aurait pas su quoi en faire.
va pas s'arrêter. Les gens sérieux vont s'en occuper, les gens pleins d'idées. L'an prochain, ils vont faire un camping, et l'année d'après, un parking, des tennis, une piscine. De partout, les touristes vont venir voir les grottes, les avennes, les dolmens, la vallée.
On vient de s'écouter Marius du groupe Imago, proposition de Alain. Vous êtes toujours sur Bonjour Turbine, non pas en direct mais en différé depuis Station B et en différé également sur Radio Pulse. Alors dans cette deuxième partie d'émission, nous allons mettre l'accent sur l'écologie dans le milieu agricole. Et pour introduire cette partie, je vous propose d'écouter la chronique d'Alexis Dufumier. Comme son nom l'indique, il est ingénieur agronome depuis une vingtaine d'années sur le territoire et il nous parle d'agroécologie.
Sauvons l'agriculture, sauvons les pirates. En tant que conseiller et journaliste spécialisé, je me suis beaucoup intéressé à l'intérêt de faire des liens entre l'agriculture et les sciences biologiques. Car utilisant des mécanismes vivants et gratuits créés par la nature au cours des deux derniers milliards d'années d'évolution, j'ai la conviction qu'on pourrait effectivement sauver à la fois le revenu des agriculteurs et notre alimentation en favorisant une santé globale des plantes, de l'air, des animaux, des sols et des humains. Cette vision, que l'on appelle agroécologie, est un idéal aujourd'hui très largement partagé, y compris parmi les agriculteurs. La difficulté est que c'est terriblement difficile à faire. Nous avons tous oublié à quel point l'agriculture est un acte de piraterie. C'est une sorte de péché originel duquel découle une sorte de malédiction. Cultiver un sol, élever des animaux, ce n'est rien d'autre que d'utiliser un écosystème, de le détourner dans son fonctionnement pour un but qui lui est étranger. L'être humain s'est approprié cette technique il y a seulement 10 000 ans à plusieurs endroits au monde, en même temps, avec curieusement l'apparition conjointe de la culture des plantes et de l'élevage. Nos anciens avaient bien compris que dans la nature, le végétal et l'animal sont deux forces qui fonctionnent ensemble. Les fruits et les graines sont produites pour être mangées et disséminées dans les bouses qui serviront d'engrais. De même que les fleurs s'adressent aux insectes pollinisateurs. Et que l'herbe, sans l'herbivore, doit subir des tontes coûteuses et pas très optimales sur le plan écologique. En Zambie, dans les années 60, il fallait trouver une solution pour maintenir la végétation comme un rempart face à l'avancée du désert. Pour ce faire, l'écologue Alan Savory fit tuer 40 000 éléphants. Et la savane continua de disparaître encore plus vite. Le broutage par les éléphants n'était pas le problème, mais la solution. Le pâturage assure à la savane de se régénérer et d'éviter que l'herbe haute s'étouffe sur elle-même. Dans ce système, les prédateurs ont un rôle tout aussi majeur. Ils entraînent les troupeaux d'une zone d'herbage à l'autre, limitant les maladies et le broutage excessif. Les bergers ont ensuite pris modèle sur ce système en le détournant dans cette relation gagnant-gagnant avec le végétal, l'herbivore et le prédateur, qui est remplacé par le chien de troupeau. Le principe de base de l'agriculture, c'est bel et bien de craquer le code du système d'origine. Et toute la malédiction de l'agriculture depuis la nuit des temps vient de là. Une malédiction qui a participé à la fin de presque toutes les civilisations humaines anciennes par l'épuisement des sols, selon Jared Diamond. Car le piratage produit en effet un certain nombre de désordres. Pour sauver l'agriculture, nous devrions mieux prendre conscience de notre propre nature peu glorieuse de pirate. C'est la base qui permettra de trouver des compensations vertueuses. Le tout chimique a consisté à mettre isolément une solution face à un problème. Ce faisant, on en a créé mille autres, à l'image du génocide d'éléphants d'Alan Savory. Aujourd'hui, nous avons cette chance de vivre une époque post-Darwin avec une connaissance de la complexité du fonctionnement du vivant. C'est ce qui doit pouvoir nous éviter de reproduire les erreurs des civilisations passées. Sauver l'agriculture, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Nous n'avons pas les savoirs pour faire sans l'agriculture pour nourrir 8 milliards d'êtres humains. L'agriculture est une invention totalement irréversible. Alors, sauvons l'agriculture et sauvons les pirates.
Alors, on vient de s'écouter Alexis Dufumier. Merci à lui. Peut-être une réaction, Stéphane, porte-parole de la Confédération paysanne du Calvados.
Effectivement, nous sommes devenus éleveurs puisque c'est. Oui, je sais pas si, oui, ça marche.
On t'entend, en tout cas.
Nous sommes devenus éleveurs parce que c'était plus simple que d'aller chasser, et cultivateurs puisque du coup, grâce à l'élevage, on pouvait semer et reproduire et éviter d'être cueilleurs et se fatiguer à cueillir. Donc on avait un peu tout sous la main, effectivement. Donc effectivement, l'environnement, on est en lien direct avec l'environnement et nos pratiques sont liées effectivement à l'environnement et à l'observation beaucoup de ce qui se passe dans la nature pour faire notre métier. Oui.
Alors je voulais te faire réagir sur un article que j'ai lu dans Reporter. Alors en fait, dans les colonnes de ce magazine, on peut lire, je cite, « Aujourd'hui, l'agroécologie plutôt que l'agriculture bio ». Le Haut Conseil pour le climat émet plusieurs recommandations, à commencer par la revalorisation des revenus des agriculteurs qui transforment leurs pratiques. L'instance met en avant celles qui relèvent de l'agriculture climato-intelligente et de l'agroécologie. Utiliser des variétés de plantes plus tolérantes à la sécheresse, sélectionner des races animales thermotolérantes, diversifier les cultures, planter des arbres et des haies, stocker des fourrages. Les solutions... Visiblement, elles sont sous nos yeux, mais est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement pour celles et ceux qui veulent opérer le changement ?
Alors, j'entends bien le agroécologie plutôt que bio, effectivement, puisque bio, il peut y avoir aussi de l'agriculture biologique intensive, industrielle. Et effectivement, l'agriculture biologique, en tout cas, permet la non-utilisation de produits de synthèse, engrais minéraux, donc nocifs pour l'environnement. Mais ça s'arrête là, en fait. Le cahier des charges s'arrête là, l'agriculture biologique. Et du coup, la différence avec l'agroécologie, effectivement, c'est qu'on prend en compte bien plus de choses par la plantation de haies et d'arbres, par exemple, pour les insectes, pour la vie animale, pour le captage du carbone. Et contrairement à l'agriculture biologique, où ça n'est pas imposé dans un cahier des charges. Donc l'agroécologie apporte plein d'avantages. Et du coup, on se retrouve dans ce que défend la Confédération paysanne, une agriculture paysanne, et prend en compte justement tout ça. Des parcelles plus petites surfaces, entourées de haies par exemple, des arbres bien évidemment pour protéger les animaux. Il y a un gros travail sur les semences fermières, donc du coup reproduction de variétés anciennes, de blé, de légumes, etc. Puisque c'était des variétés qui sont résistantes. En fait, le jeu de l'industrialisation de l'agriculture, notamment par l'INRA, ça a été de spécialiser. Donc on a des animaux qui sont spécialisés pour grossir très vite, comme un poulet en 35 jours par exemple. Chez nous, c'est 140 jours pour pouvoir manger un poulet. Donc on a spécialisé des races à viande, des races à lait, des volailles, des légumes, des céréales. Et du coup, on fragilise. On a fragilisé tous ces animaux, d'où l'utilisation ensuite de médicaments, d'antibiotiques, etc. Donc on a vraiment tout déréglé. Et donc l'agriculture paysanne, c'est bien l'inverse, comme ça se retrouve avec l'agroécologie. C'est qu'effectivement, il faut avoir des races anciennes, des races qui s'adaptent aussi au climat. On doit attendre vers ça, quoi.
Du coup, il y a eu un petit peu de retard de prix. Alors, en parlant du sujet des graines, des semences, par exemple, pendant très longtemps, donc les semences doivent être inscrites dans un catalogue, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir être commercialisées. Est-ce qu'on a perdu des variétés de semences, des variétés de végétaux à cause de cette situation, un peu de monopole industriel ?
Oui, on en a sûrement sans doute perdu, mais notamment grâce aux semences paysannes, à des associations et soutenues par la Confédération paysanne, il y a...
Comme Cocopelli, par exemple.
Cocopelli et d'autres, voilà, c'est ça. Il y a des paysans ont chez eux des variétés en stock qui reproduisent et qui peuvent donner, vendre. Donc non, il y a beaucoup de semences protégées, enfin par les paysannes et par les paysans. Donc il y a un gros stock, et ça c'est vrai, effectivement une valeur énorme, quoi.
Et alors justement, je reviens à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que ça se fait que ce changement ne s'opère pas ? On a l'impression que tous les voyants sont au vert, que c'est plein d'externalités positives que d'être paysan, d'avoir une agriculture paysanne. Comment ça se fait, vraiment ?
C'est politique. Il n'y a pas de volonté politique d'aller tendre vers un autre, notre modèle. En fait, pour reprendre ce que disait un ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelait M. Pisani, ministre de l'Agriculture dans les années 74 sous Giscard d'Estaing, je crois, si je ne dis pas de bêtises, disait que donc il a mis en place une politique agricole. À l'époque, il fallait que l'agriculture se modernise pour produire plus, pour aussi... malgré tout, enlever de la peine aussi au milieu agricole, parce que le travail était aussi très, très physique à l'époque. Et, sauf que dans les années, peut-être 20 ou 30 ans après, il disait on aurait dû arrêter la politique agricole telle qu'elle est aujourd'hui et refonder une autre politique agricole, parce que l'objectif de l'époque était atteint, c'est-à-dire produire plus. Et il aurait fallu repenser toute l'agriculture, toute la politique agricole commune européenne, parce que l'objectif était atteint. Et donc pourquoi on n'arrive pas à changer alors que les exemples sont présents, hein, l'agriculture biologique est présente, l'agriculture paysanne existe aussi. Mais il y a du gros lobbying de notamment l'industrie agroalimentaire, vente de matériel, etc. Puisque nous, en fait, dans nos systèmes, on est très peu dépendant justement de tout ça. Et donc ça intéresse pas le business. Et donc du coup ça change pas. Et comme on parlait de co-gérance tout à l'heure, FNSEA JA avec le ministère de l'Agriculture depuis toujours. Et bien donc du coup c'est très difficile de se faire entendre. Et donc on continue dans cette agriculture libérale de libre échange et destructeur et qui tue les paysannes et les paysans quoi.
Justement, ça semble assez fou quand même, puisqu'il y a beaucoup de paysans, enfin d'agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont plutôt dans une agriculture conventionnelle. Comment se fait-il qu'ils ne passent pas le pas ? Alors, c'est peut-être que ça nécessite un gros investissement aussi de changer sa pratique.
Oui, et puis, alors effectivement, des fois pour changer de système, ça peut être très, très compliqué parce qu'on est pris justement dans les remboursements d'emprunts, on est pris dans des. Dans un système et en fait on a un peu la tête dans les guidons, des collègues peuvent travailler très très longtemps dans la journée, enfin ont des amplitudes horaires très très longues et du coup on n'a pas le temps de s'arrêter, de se poser et de dire voilà j'ai envie de changer. Donc s'ils ne côtoient pas d'autres paysannes et paysans autour d'eux pour justement échanger sur ces pratiques et puis peut-être apporter des modifications à leur système, bah c'est très compliqué. Et quand on a les vendeurs de produits phyto qui rentrent dans la cour pour dire bah oui moi je peux vous vendre ça, enfin etc. C'est très facile de signer un bon de commande. Enfin voilà, on est pris dans l'engrenage et de changer. Et puis de changer, de s'extraire d'un groupe, c'est toujours compliqué, hein, de s'extraire d'un groupe majoritaire pour aller vers un groupe minoritaire. C'est valable dans toute profession, dans tout groupe d'humains. À partir du moment où on sort, on est soit regardé, soit fixé, soit puis il faut rentrer dans un nouveau groupe avec des nouvelles personnes. Donc c'est compliqué. Donc,
encore plus dans le milieu rural où on se sent peut-être plus isolé quand on opère le changement.
Oui, et puis les voisins voient ce qu'on fait. Puisqu'on travaille à l'air libre. Donc du coup, le voisin qui passe à côté me dit oh, bah, qu'est-ce qu'il fait, ces champs, c'est sale. Donc on est tout de suite catalogué. À partir du moment où on fait différemment, c'est compliqué quoi.
Ouais,
tout ça. Et il y a l'histoire. Du coup, il y a les parents qui ont toujours fait comme ça. Donc il faut reproduire le schéma. Il faut pas s'extraire du modèle paternel parce que là, clairement, il y a la pression paternelle globalement. Hein. Et donc donc c'est difficile de faire ces changements. Et s'il y avait une vraie politique agricole française qui dit voilà on soutient une autre forme d'agriculture mais on la soutient vraiment pour ses services environnementaux et sociaux comme l'est par exemple l'agriculture biologique ou l'agriculture paysanne, et ben clairement il pourrait y avoir des changements. Il pourrait y avoir des changements, mais tant que c'est pas soutenu, valorisé, tant qu'on valorise pas ce que l'on fait, et ben effectivement c'est compliqué de changer.
Ouais, donc un gros travail de déconstruction en somme. Alors justement, déconstruisons avec un morceau réalisé par le groupe The Inspector Clouseau qui sont des éleveurs aussi. Donc ils nous proposent le titre Act Local, Think Global.
Do you want?
Voilà, j'espère que vous avez compris. Act local, think global. J'ai un très mauvais accent, c'est terrible, de The Inspector Clouseau. Vous êtes bien sur Bonjour Turbine. Dans cette dernière partie, nous allons échanger ensemble sur la mise en action du changement à opérer avec notre invité du jour, Stéphane Bourlier, porte-parole de la Confédération Paysanne du Calvados. Alors avant de vous entendre, Stéphane, on s'écoute une dernière fois Marine, qui, elle, nous soumet aussi une proposition.
Là, du coup, le consommateur a vraiment sa place et qu'il doit vraiment... c'est lui qui va choisir s'il va acheter un produit transformé en France ou pas. D'acheter un produit qui a été transformé dans des conditions qui ne respectent pas certaines lois. Alors, est-ce qu'il va aller directement à la ferme acheter son produit Et l'autre sujet, c'est qu'effectivement, je trouve ça assez fou aujourd'hui qu'on puisse avoir une marge fixée par les industriels pour avoir de l'argent... pour faire du marketing sur un produit qui est nécessaire. Du lait, c'est du lait. Achetons du lait, on n'a pas besoin de faire du marketing, de la pub et de dépenser de l'argent pour ça. On n'en a pas besoin. Comment ces politiques vont nous entendre? Comment ces grands industriels vont nous entendre? Sachant que forcément, pour aller dans le bon sens, on va toucher un peu au confort de certains. Si on arrivait à réduire les quantités, à remettre les prix au juste prix, ça nous permettrait de faire des cultures peut-être plus raisonnées, plus raisonnables. Pour moi, l'agriculture paysanne, c'est vraiment une agriculture raisonnée, où l'agriculteur a sa place, où l'environnement a sa place et où tout est équilibré, quoi.
Alors, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, je t'ai vu hocher la tête.
Alors, elle parle de défense de l'agriculture paysanne, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste quand on parle d'agriculture raisonnée, en fait, ça ne veut rien dire. Y a pas... L'agriculture raisonnée, c'est un truc qui a voulu être lancé par notamment le syndicat majoritaire avec l'appui du ministère de l'Agriculture, mais en fait, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de contrôle. On peut décider d'être raisonnable ou pas, d'être raisonné ou pas, du jour au lendemain. Donc en fait, ça ne veut strictement rien dire. Donc voilà, et aujourd'hui c'est bien hein, ce genre de message. Alors là, je pense que c'est pas ce qu'elle a voulu dire, elle n'a pas voulu défendre l'agriculture raisonnée, puisqu'elle a parlé d'agriculture paysanne. Mais aujourd'hui, on voit la multiplication des labels, on en parle beaucoup.
HVE, par exemple,
notamment
qui pose question.
HVE. Donc HVE, en fait, il faut savoir que ça a été repris du coup par ce que je disais tout à l'heure, donc le syndicat majoritaire et le ministère de l'Agriculture, pour remplacer ce raisonné qui n'a pas pris. Et finalement, on peut être HVE et ne pas rien changer à ses pratiques, toujours traiter autant. Et mais comme il y a un beau label avec une petite abeille sur une fleur, et ben ça fait très vert. Et donc, on nous explique que c'est encore mieux que de l'agriculture biologique. Il faut savoir que le HVE est très développé dans le sud-ouest de la France. Pourquoi ? Parce que dans le sud-ouest, il y a beaucoup de viticulture, notamment, enfin toute la région de Bordeaux, oui. Etc. Et tous les producteurs de vin sont en HVE. Parce que ça fait vendre, du coup, d'avoir ce petit logo HVE.
On y croit, et nous, consommateurs.
Ouais, bien sûr, on y croit. Et pourquoi ils y sont tous ? Parce que c'est très simple pour eux, parce qu'en fait, la porte d'entrée pour être HVE, alors ça doit changer, hein. Mais la porte d'entrée, c'était le pourcentage d'intrants d'achat, c'est-à-dire l'achat extérieur, ne devait pas dépasser 20% du chiffre d'affaires de la ferme. Le vin, ça se vend très cher, donc 20%, ça laisse une grosse marge d'avoir beaucoup d'intrants sur la ferme, notamment des produits phyto. Donc du coup, c'est vraiment du traquenard. Donc voilà, donc faut pas se fier à ce genre de...
j'ai lu des articles là-dessus. Même McDonald's a des produits HVE aujourd'hui. Voilà, et pourtant la personne qui était à l'initiative de ce label est dégoûtée de voir un petit peu comment il a été
détourné.
Détourné, exactement. Alors justement, on parle de passage à l'action. Donc, alors citoyens, consommateurs, politiques, médias, par qui on commence et que doit-on faire?
Oh là là, vaste question. Alors effectivement, c'est bien d'aller acheter directement chez un producteur, ça, comme ça a été dit, sur les marchés, c'est important. Ça permet aussi d'échanger avec la productrice ou le producteur, d'aller sur les fermes aussi. Je pourrais peut-être y revenir tout à l'heure, mais il y a le salon à la ferme qui est organisé par la Confédération Paysanne et il y a des fermes ouvertes. Donc on peut aller à la rencontre des éleveuses et des éleveurs, par exemple. Donc ça c'est important. De choisir des productions qui sont produites effectivement localement en France, par exemple, même s'il y a des produits qu'on ne peut pas produire en France, mais on a le droit d'acheter aussi, bien sûr, hein. Mais et sur des productions, par exemple bio, parce que clairement qui n'utilise pas de produits polluants, globalement c'est l'agriculture biologique. Et donc clairement, si la politique, si le ministère de l'agriculture choisissait de défendre vraiment une agriculture, ça devrait passer par l'agroécologique, mais je l'ai déjà dit ça.
Et alors, tu parlais des marchés, oui. Petite parenthèse, parce qu'il y a aussi, j'ai mon cousin qui est maraîcher, il me disait, lui, c'est vrai que la population ne fait pas forcément le distinguo entre les primeurs et les maraîchers. Et sachant que bah voilà, les primeurs sont seulement ont acheté la revendeurs. Plupart du temps des revendeurs, et les maraîchers, eux, ont produit eux-mêmes de leurs mains. En général, ils ont plus de cernes et une plus grosse barbe, voilà, si vous voulez les repérer. Voilà, fin de parenthèse.
Oui, puis on peut aussi leur demander s'ils ont produit, et on voit bien aussi sur les cagettes, etc., comment, d'où ça vient globalement les productions, et puis bah, de saison, forcément. Par exemple, si on parle de légumes, puisque ça, clairement, de légumes ou de fruits, de la viande, on peut en produire toute l'année, mais si c'est des légumes ou si c'est des fruits, bah, si on a des fraises à Noël, bah, globalement, on peut se dire qu'il y a un problème, c'est pas local, quoi. Voilà. Ou des tomates, même si elles sont de Colombelle et qu'elles sont soi-disant bio toute l'année, non, ça va pas. Ça va pas.
Ouais, il faut aussi se reconnecter avec son alimentation et aussi avec ses producteurs, productrices. Alors, on a parlé des consommateurs, on a parlé des politiques assez largement. En off, tu nous parlais des médias aussi qui faisaient un travail de désinformation. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots aussi de ça ?
Alors, du coup, je sais pas si c'est de la désinformation, mais en tout cas, les médias, les journalistes, globalement, ne creusent pas suffisamment les sujets.
Influencés par les lobbyistes, on va dire.
Et influencés par les lobbyistes. Par exemple, on a parlé beaucoup des jachères. C'était dit dans la chronique tout à l'heure. En fait, il faut savoir que la jachère, c'est pas obligatoire d'avoir des jachères, d'ailleurs, déjà sur sa ferme. C'est pour prétendre à des subventions européennes. Mais en fait, on peut compenser ces 4% de services d'intérêt environnementaux sur sa ferme par simplement des arbres, des mares, des zones humides, des talus. Enfin, on peut remplir ces 4% sur une ferme sans être obligé de faire de la jachère. Alors, il se trouve qu'effectivement, dans les grandes plaines céréalières comme la plaine de Caen, par exemple, où il n'y a plus d'arbres, plus de zones humides, pas de zones humides, eh bien, ils sont obligés de passer par ces 4% de jachère. Donc, voilà, ça n'est pas expliqué globalement dans les médias, et on croit qu'effectivement, avec ces 4% de jachère, bah, on pourra plus cultiver, on va perdre du rendement, on va perdre de la production. Mais la finalité, c'est bien pour toucher des primes de l'Europe. Mais à la limite, on n'est pas obligé de prétendre à ces primes si on ne veut pas respecter les 4% de jachère. Puis c'est tout.
Exemple de la Ferrari voilà. Que vous donnez tout à l'heure. Et justement, alors, la jachère, on est d'accord, c'est laisser le sol au repos pendant une période.
Oui, bah, par exemple, pendant un an, par exemple. Mais s'il y a aussi des prairies sur la ferme, c'est la ferme, une prairie dans la rotation des cultures, la prairie apporte justement un peu, pas l'effet jachère, mais elle apporte aussi un repos. Le sol n'est pas travaillé pendant plusieurs années, par exemple, et va produire aussi, va stocker beaucoup de gaz de carbone, et va permettre aussi une vie souterraine importante, du coup, pendant ces 4 années ou plus, en tout cas. Mais voilà, donc on n'est pas obligé de passer par la jachère, non. Il y a ce premier exemple. Il y a l'exemple des haies aussi. Je vais juste revenir là-dessus. On nous a dit beaucoup qu'il y avait 14 normes pour la gestion des haies. Donc, si on veut planter une haie sur une ferme, c'est très simple. Bien souvent, les mêmes prises en charge à 100% par les collectivités, départements notamment. Donc, en fait, il n'y a pas 14 normes pour la gestion des haies. C'est éventuellement juste pour rendre compliqué, impossible, voire le déplacement d'une haie, l'arrachage, etc., l'arrachage d'arbres, l'arrachage de haies. Effectivement, ça, c'est très réglementé et très suivi parce que ça a des conséquences terribles sur l'environnement et la biodiversité.
Et la haie qui peut, en plus d'être une source de biodiversité, peut être aussi une source d'énergie pour les paysans.
Et une source alimentaire aussi.
Exactement.
Oui, une source alimentaire, parce qu'il faut savoir que je prends peut-être un peu de temps sur ton truc, mais...
Allez, 20 secondes.
Faut savoir que, par exemple, en période de sécheresse, donc les arbres protègent les animaux de la chaleur, par exemple les bovins, mais aussi s'il n'y a plus d'herbe au sol, dans les prairies, sont aussi une source alimentaire, c'est-à-dire qu'on donne les feuilles à manger aux animaux. Et moi, il y a 2 ans, sur notre ferme, on a nourri pendant 3 semaines toute notre cheptel qu'avec des feuilles. C'est des pratiques qui étaient très utilisées auparavant. Les animaux mangeaient tous des feuilles, hein, mais on a spécialisé l'agriculture sur la récolte d'herbes et non plus sur la récolte de feuilles.
Voilà. Donc sauvons les haies, conservons les haies, plantons des haies. On continue cette émission en vitesse, il nous reste peu de temps avec Alain qui nous a préparé un joli poème.
«
Moi, je vais vous parler un peu de poésie. Alors que l'amour, la guerre, la beauté, la mer et bien d'autres sujets ont beaucoup inspiré les poètes, les paysans ne les ont guère intéressés, si j'en juge le peu de textes que j'ai trouvés malgré de nombreuses recherches. Certes, leurs auteurs ne sont pas les moindres. Cependant, est-ce le symbole là aussi que le monde des paysans ne génère que peu d'intérêt ? Ne boudons pas notre plaisir toutefois, sans plus attendre, découvrons ces quelques extraits. Je vais commencer par François Fabier, un poète aveyronnais de la fin du 19e, qui a dépeint sa France dans Terre de France. Oui, partout elle est bonne et partout elle est belle. Notre terre de France aux mille aspects divers, belle sur les sommets où trônent les hivers, et dans la lande fauve à l'arrière rebelle, belle au bord des flots bleus, belle au fond des bois verts. Belle et bonne aux coteaux où la vigne s'accroche, et dans la plaine grasse où moutonnent les blés, bonne dans les pâtis où les bœufs rassemblés mugissent, bonne encore aux fentes de la roche où les oliviers gris aux figuiers sont mêlés. Une pause pour apprécier. Poursuivons, et qui mieux que le grand Victor Hugo a décrit ses paysans dans « Saison des semailles le soir », paru en 1865 dans « Les chansons des rues et des bois ». C'est le moment crépusculaire, j'admire, assis sous un portail, ce reste de jour dont s'éclaire la dernière heure de travail. Dans les terres de nuit baignées, je contemple, ému, les haillons d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Sa haute silhouette noire domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense. Va, viens, lance la graine au loin. Rouvre sa main et recommence. Et je médite, obscur témoin. Pendant que déploie ses voiles, l'ombre, où se mêle une rumeur, semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. Plus proche de nous, Coralie Rispal nous livre une ode à l'agriculture féminine en 2018 pour le Printemps des poètes. Agricultrice, c'est un métier, tu sais, il ne faut pas le nier. C'est avant tout ma vraie passion et une affaire de transmission. Plusieurs types d'élevage, une belle histoire de partage, de l'élevage aux cultures, au contact de notre nature. Façonner tous nos territoires, c'est avant tout un savoir. C'est ce métier que j'ai choisi. Garçon ou fille, c'est pour la vie. Maintenant, est-ce que le paysan de Sully Prudhomme, dans Stance, a-t-il vraiment changé, même si les machines ont remplacé les bêtes? Que voit-on dans ce champ de pierre ? Un paysan souffle épuisé, le hâle a brûlé ses paupières, il se dresse le dos brisé, il a le regard de la bête qui, dételée, enfin s'arrête et flaire en allongeant la tête son vieux bas qu'elle a tant usé. La misère étreignant sa vie, la courbe à terre d'une main et fermant l'autre le défi d'en ôter sans douleur son pain, il est la chose de face humaine qu'on voit à midi dans la plaine travailler, la peau sous la laine et les talons dans le sapin. Enfin, écoutons la sagesse philosophe du poète libanais Khalil Gibran en 1923, dans « Le prophète ». Ensuite, un laboureur dit « Parle-nous du travail ». Et il répondit disant « Vous œuvrez par espérance de vous mettre au rythme de la terre, de son âme. Car, désœuvrés, vous deviendrez des étrangers au regard des saisons et vous quitteriez le cortège de la vie qui chemine en majesté et noble soumission vers l'infini. » Lorsque vous œuvrez, vous êtes flûte qui a le murmure des heures, se module en musique. Qui d'entre vous se voudrait roseau silencieux et muet quand toutes les choses s'accordent et chantent ensemble ? Il vous a toujours été dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Voilà, un peu de poésie dans un monde brutal et sans pitié. Ça fait du bien, non ?
Bravo Alain, c'était très agréable. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à toi, Stéphane Bourlier, notre porte-parole de la Confédération Paysanne du Calvados, à Marion qui était ce soir à la technique, à nos chroniqueurs, chroniqueuses, Lise, David, Alain et Alexis. Alors, je vous propose de terminer cette émission par une petite lecture rapidement du programme avant que je concluse, puisque j'avais promis que je le ferais. Alors, on parlait tout à l'heure des visites à la ferme. Alors, il y a trois dates à annoncer, donc à la ferme de la Ruelle, le samedi 24 février de 14h à 17h. Ça sera à Beaufour-Druval le 21 février de 10h à midi, ça sera à Le Détroit, et le samedi 2 mars de 13h à 16h ça sera à où est-ce que ça, à Gouvix, voilà, mais toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Confédération Paysanne du Calvados, si je ne dis pas de bêtises, on me le confirme. Et je termine avec une phrase, plutôt quelques lignes de Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter. Il dit, je cite, 1,6 million en 1982 à 400 000 en 2019. et encore 100 000 fermes disparues depuis 2010. Nous soutenons de longue date l'idée qu'il peut y avoir 1 million de paysans en France qui vivent bien de leur métier et dans la dignité. Il est temps de repenser l'agriculture à l'aune des défis d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, le climat et la biodiversité s'imposent à nous. Et plutôt que de chercher à y échapper, l'agriculture pourrait y être l'outil qui permet de les modérer et de faire un monde nouveau. Amis paysannes, amis paysans, soyez écologistes.